Bienvenue dans l'émission Grand Format, le podcast numéro 1 en Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités à l'occasion de l'inauguration du mémorial de la paix verte. Nous recevons Omaha, née en 2084, qui va nous parler de son quotidien. Et nous accueillons également Leïla, qui va nous raconter son parcours et son engagement. Elle qui est née en 2014, pendant les 30 désastreuses. Merci beaucoup à tous les deux d'être présentes et présents aujourd'hui. Omaha, peux-tu nous raconter une semaine type et tes différentes activités ?
Au quotidien, donc, j'effectue un métier manuel, donc je suis ébéniste, mais je suis également aussi professeur d'éducation à l'adaptation dans les lycées et écoles. Donc voilà, ça occupe la plupart de mon temps. Mais aussi, une fois par semaine, j'effectue mon TIP. Donc je vais sur les chantiers, j'aide à porter des charges plutôt lourdes pour de la rénovation de bâtiments.
Très bien, merci. Alors, tu nous parles des types, donc on le rappelle, hein, les types travaux ingrats partagés qui ont été mis en place depuis la loi de 2094. C'est plutôt récent, hein, et on peut se demander comment c'était avant. Alors, pour nous aider à répondre à cette question, Leïla, tu peux peut-être nous raconter avant ces types, qu'est-ce qu'on faisait ?
Eh bien, ce qui se passait, c'était que tous ces travaux un peu désagréables, ils étaient... confiés, enfin en tout cas les seules personnes qui acceptaient de les faire, c'était les personnes qui étaient souvent stigmatisées et qui en tout cas n'avaient pas pu accéder à d'autres formations, etc. pour faire d'autres métiers plus épanouissants, et donc ils se retrouvaient par exemple à faire le ménage toute la journée ou les poubelles, etc. Et en plus c'était souvent des métiers qui étaient assez mal payés avec une perspective d'évolution professionnelle très faible. Typiquement, j'avais ce prénom de Leïla qui, à l'époque, était aussi très marqué Maghreb, etc. Et on était dans cette période où l'immigration était perçue comme un frein et comme une menace pour nos civilisations occidentales. Mais heureusement, il y a des crises importantes qui non seulement ont engendré une grosse mortalité sur nos territoires, mais qui nous ont aussi fait comprendre qu'en fait, il fallait revenir à plus de concret et qu'on allait devoir se passer d'un certain nombre de machines et d'énergie. Et donc que la force physique et le souhait de personnes qui souhaitaient s'investir au quotidien dans le soin étaient précieuses.
Oui, car pendant les 30 désastreuses, donc entre 2004 et 2034, souvent on avait un métier pour toute la vie. Parfois, il était pénible et c'était donc des personnes stigmatisées, comme tu le dis, qui les réalisaient à défaut d'être attrayants. Alors, Leïla, tu as été une des personnes qui a œuvré pour que des personnes comme Oma puissent avoir un quotidien comme celui qu'il a aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et notamment ce qui s'est passé pour toi lors de la fameuse grippe par de 2034, hein, on le rappelle. En 2034, il y a eu la grippe porcine aviaire ruminant qui a entraîné des grands changements sociétaux. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment ça s'est passé pour toi et l'influence que ça a eu dans ta vie ?
Eh bien, à l'époque, j'avais 20 ans. Et on pensait tous que ce seraient les problèmes énergétiques qui transformeraient les sociétés. Et en fait, bizarrement, je ne sais plus trop, mais il y avait une période où il y a eu un Covid qui a fait aussi pas mal bouger les lignes. Mais finalement, très vite, on était revenu comme avant, quoi. Et sauf que là, en 2034 et sur 2 ans, il y a eu une période très importante où tous ces animaux, donc les porcins, tout ce qui est poules, etc., et les ruminants, donc quand même les veaux, les vaches, les moutons et autres, sont tous tombés malades de maladies assez proches, mais quand même suffisamment différentes pour que ce soit difficile de trouver des traitements. Et du coup, il y a toute cette partie-là de notre vie du quotidien, bon, pour certains professionnels, évidemment, parce que c'était les éleveurs, mais aussi les industries de transformation de la viande, qui constituait une part non négligeable aussi de tout ce qui était l'industrie agroalimentaire, quoi. Et puis, évidemment, on a craint aussi que ça s'étende à l'homme. Voilà, et en fait, cette crise-là a déstructuré complètement l'économie et puis aussi nos paysages. Parce que l'agriculture s'en est trouvée aussi transformée. Il a fallu trouver d'autres sources d'engrais, etc. Heureusement, on a quand même réussi à maintenir certaines espèces animales de ces trois types-là. Mais voilà, aujourd'hui, on sait bien que c'est dans des quantités bien moindres. Mais ça a été un marqueur fort psychologique aussi de se dire, bon, bah, en fait, on croyait tous qu'il fallait qu'on mange de la viande régulièrement. Et en fait, on a trouvé des solutions pour avoir un équilibre alimentaire différent, quoi.
Effectivement, entre 2034 et 2054, cette période qu'on a appelée plus tard les 20 courageuses, ça a été le lieu d'expérimentation. Je crois savoir que tu as participé à ces expérimentations. On a eu notamment comment des expérimentations autour, donc tu parlais de l'alimentation, de la sécurité sociale de l'alimentation. Et c'est également une période pendant laquelle on a vu des réformes fortes, comme la réforme de l'enseignement. On a vu apparaître à cette époque-là des enseignements d'EDD, d'ESS, la permaculture et l'histoire territoriale ont intégré les programmes à cette période, et les élèves sortaient de l'école avec des savoirs très concrets depuis les 20 courageuses. Donc ce sont des choses qui ont motivé ton engagement politique. Est-ce que tu as participé activement à ces choses-là?
Eh ben, en fait, comme la plupart des personnes qui avons eu ou qui ont encore des mandats politiques aujourd'hui, finalement, il y a eu un renversement des processus qui amènent au pouvoir, ou en tout cas au fait de prendre des décisions pour des groupes, des petites sociétés, États ou régions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite des 30 désastreuses, où on avait constaté qu'on allait quand même dans un mur, mais qu'on n'arrivait pas à changer de braquet, la crise de la grippe, de la grippe part, et puis aussi les différentes pénuries sur les ressources minières qui se sont vraiment révélées, ont détruit un peu les scénarios techno-solutionnistes qu'on avait pu faire entre les années 2000 et 2034. L'État, finalement, et dans différents États dans le monde, ont décidé de modifier l'attribution des financements, de défiscaliser complètement tout ce qui était expérimentation pour la transition écologique, une transformation en profondeur de nos sociétés. Et voilà, et on a été très nombreux à tester plein de choses partout. Et finalement, on s'est aussi rendu compte qu'il fallait relocaliser le pouvoir, justement. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a un peu modifié la dynamique des mandats nominaux, etc. Et qu'on a travaillé par groupe de personnes pour faire advenir plutôt des projets que tel ou tel courant politique, quoi.
En 2054, il y a eu toutes les grandes réformes que l'on connaît aujourd'hui, la reprise en main de la sécurité sociale, la mise en place du revenu universel pour contrer justement comment ces logiques de métier, et notamment pallier les métiers difficiles, notamment physiquement. Il y a eu une réorganisation territoriale grâce à la loi de programmation qui a été généralisée. On met en place à cette époque un essaimage massif de toutes les expérimentations réussies. Toutes les expérimentations n'ont pas forcément abouti. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. On a gardé le meilleur et ce qui fonctionnait le mieux pour ensuite réussir à faire cette proposition forte, donc des types dont on parlait au début de cette interview, donc les travaux ingrats partagés. Omaha, toi qui vis ça au quotidien, est-ce que tu pensais que avant on pouvait exercer, tu avais déjà entendu parler des métiers, qu'on faisait un métier dans sa vie, on était rémunéré uniquement pour ce type de métier et on le faisait malgré tout?
Bah, je suis très surpris de l'apprendre qu'avant ça ne fonctionnait pas du tout cette manière-là. Et je suis quand même très heureux au quotidien d'avoir plusieurs métiers, c'est gratifiant, et Et je suis très épanoui dans ce que je fais aujourd'hui.
Ça fait plaisir d'entendre ton retour et tout ça, c'est entre autres grâce à des personnes comme Leïla. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présente et présent à mon invitation.
Merci.
Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
Merci. Et n'oubliez pas, la révolution est toujours en cours.